Aujourd'hui, je vous présente un dossier complet sur le projet de navette fluviale qui relierait Havre-Saint-Pierre à l'île d'Anticosti et puis la région de Gaspé. Hier, on a dévoilé les retombées économiques de cette liaison maritime en conférence de presse alors que les joueurs étaient présents, c'est-à-dire la direction du port d'Havre-Saint-Pierre, notre mairesse Hélène Boulanger, le maire de Gaspé qui est aussi le préfet de cette région, notre préfète Meggy Richard et puis la firme Aviseo qui a procédé à cette étude de retombées économiques sur quelques années et qui fait 70 pages, là, le bouquin en question. La démarche hier visait à assurer que le projet est rentable, que les retombées économiques sont réelles. En fait, l'étude économique estime que les revenus annuels pour le gouvernement du Québec dépasseraient les 12,5 millions de dollars, ce qui compenserait le déficit d'opération du traversier qu'on estime à 6,7 millions de dollars et bien entendu, contribution au PIB, c'est-à-dire à l'économie générale du Québec, à 38,8 millions de dollars annuellement. On parle aussi du soutien de plus de 537 emplois annuellement, principalement dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration. Et ça, ça vaut autant pour la région de Gaspé, d'Havre-Saint-Pierre ou sinon de l'île éventuellement. Quelle est la prochaine étape maintenant que les conclusions de l'étude sont connues? Odessa Thériault est l'actuelle directrice générale du port d'Havre-Saint-Pierre.
Nous, on fait depuis 2002 là, au port d'Havre-Saint-Pierre, comme j'expliquais, on pilote ce dossier-là. C'est extrêmement important de faire les choses dans l'ordre et de bien faire les choses. Aller chercher, en fait, là, ces études-là très rigoureuses qu'on a menées là, au cours des derniers mois, années avec Aviseo, ça nous permet de venir montrer que ce projet-là, il est réaliste. Donc, maintenant, je crois que le gouvernement, comme je disais d'entrée de jeu, va avoir tout en main pour se positionner pour ce projet-là, en fait. Les prochaines étapes dépendent d'une annonce, d'un positionnement clair et officiel de la part du gouvernement. Par la suite, vont suivre plusieurs étapes subséquentes, bien évidemment. Là, on parle d'infrastructures portuaires, de mise à niveau. On en a parlé tout à l'heure, là, au niveau de la capacité d'accueil des milieux. Donc, tout ça va prendre quelques années, très évidemment, mais je pense que pour les prochaines étapes, personne ne va faire d'investissement sans un son de cloche clair du gouvernement. On présente ça aujourd'hui en s'attendant que la prochaine étape soit une annonce.
Il y a deux principaux objectifs avec ce projet. D'abord, créer une boucle touristique d'Havre-Saint-Pierre, Basse-Côte-Nord, vers Anticosti et par la suite la région de Gaspé, d'une part. Seconde part, désenclaver Anticosti. Anticosti, qui présentement est la seule île habitée du Québec qui ne compte pas sur un traversier. Pour la mairesse Hélène Boulanger, Anticosti est incontournable dans ce projet.
Étant le point central, le but du désenclavement, on ne peut pas faire autrement que faire partie de cet immense projet-là qui est à venir. C'est un projet fabuleux qui remet sur la table une situation qui avait existé, c'est-à-dire il y a déjà eu un traversier il y a une trentaine d'années et l'expérience n'avait pas été très concluante. Le refaire la deuxième fois nous donne la chance de bien mieux faire et c'est comme ça que c'est parti. Le travail qui a été fait avec l'étude actuelle démontre bien le service de la chose, puis comment est-ce qu'on va procéder, comment est-ce qu'on va être capable de démontrer qu'il y a un intérêt pécunier, c'est pas banal, faut toujours dire, lorsqu'on demande des aides financières aux politiques, combien ça va coûter et combien ça va rapporter. C'est un peu à ça que sert l'étude, cette démonstration-là. Puissant là, comme début de l'ensemble de la démarche pour que maintenant, les partis politiques, celles qui sont autour de la table aujourd'hui et celles qu'on va aller solliciter, là, puissent faire un engagement puis démontrer leur volonté à relier le Nord et le Sud pour le plus grand besoin de développement, le plus grand besoin en touristique, économique, tout ce qu'il va y avoir en ce sens-là, et l'occupation du territoire, la vitalisation, renverser la roue, hein? On ne parlera plus de dévitalisation, mais de vitalisation.
Ce sont 39 000 touristes par année, estime-t-on, qui bénéficieraient de cette navette, donc susceptibles de passer par l'île, à partir d'un bateau qui serait plein à 70 %, un bateau qui coûterait au moins 20 millions de dollars. On écoute la préfète Meggy Richard.
Le message pour nous, il est clair. La région de la Côte-Nord, c'est plus qu'une région ressource. Je tiens à le mentionner parce que c'est une région qui regorge de beauté naturelle. On a notre parc national de l'archipel de Magan et maintenant un site du patrimoine mondial de l'UNESCO avec Anticosti. Ils doivent être protégés, mais ils doivent également être mis en valeur. Il faut les rendre accessibles. Mais aussi, c'est une région qui est hyper résiliente. Je pense tout de suite, bien évidemment, aux gens de la Côte-Nord puis de la Gaspésie, mais surtout à ceux de l'île d'Anticosti qui méritent d'avoir des moyens de transport pour se désenclaver en lien de transport adaptés à leurs besoins, mais surtout à nos réalités territoriales. C'est une opportunité de favoriser le développement économique, touristique et social de nos deux régions, tout en favorisant le désenclavement de l'île d'Anticosti. Puis aujourd'hui, ça marque une étape importante, mais il reste encore beaucoup de travail. Alors, la MSC de Mangani s'engage en collaboration avec ses précieux partenaires à continuer de porter ce projet-là avec les communautés locales parce qu'on y croit sincèrement.
Lorsque Mme Richard dit il reste beaucoup de travail, oui, il reste beaucoup de travail, parce que d'abord, il faut susciter l'intérêt du gouvernement, alors qu'il y a d'autres projets majeurs qui s'amènent là. Le projet d'une troisième voie à Québec qui risque de coûter plusieurs milliards de dollars. Il y a le projet du pont au-dessus de la rivière Saguenay qui va en coûter aussi beaucoup s'il doit se faire. Il y a le déménagement de la navette fluviale de Rivière-du-Loup vers Cacouna. Et puis, il y a aussi le projet d'une navette fluviale entre Rimouski et Forestville. Et là, s'ajoute ce projet-ci de devoir investir dans des études. Parce que si on va de l'avant, si le gouvernement dit oui, on a de l'intérêt pour ce projet-là, go, ben il va falloir procéder à des études. Des études sur qu'est-ce que ça prend comme investissement en Basse-Côte-Nord pour être capable de recevoir 39 000 personnes? Qu'est-ce que ça prend à Lille pour d'abord être capable de recevoir un tel traversier? Puis par la suite, évidemment, avoir du logement, des hôtels, des auberges, des restaurants, des activités, être capable de brancher tout ce monde-là sur un réseau d'égouts et d'eau potable qui devra être, encore une fois, amélioré pour être capable de recevoir tous ces gens. Et par la suite, quels sont les investissements à faire à Gaspé? Pour ces études de coûts, bien, il va falloir aussi que le gouvernement investisse. Donc, supporte le projet non seulement en disant oui, nous sommes intéressés, mais voilà, nous répondons oui aussi aux demandes de subventions pour pouvoir procéder à ces études. Mathieu Paquette, économiste chez Aviséo, la firme qui a réalisé cette étude de marché.
On ne fait pas des projets uniquement pour leur retombée économique et touristique. Il y a d'autres considérations, des effets structurels et stratégiques. Donc, on est mieux documenté ces effets-là en amont. Et puis ensuite, puisqu'il y a quand même une question de retombées importantes, de très belles retombées pour les régions, on est mieux régionaliser les retombées économiques et touristiques. Donc, au niveau des effets régionaux, on arrive avec 58% des retombées économiques qui surviennent dans la région de la Côte-Nord, entre autres parce que ça inclut l'île d'Anticosti. Mais quand même des très belles retombées pour la Gaspésie également. 227 emplois soutenus, 311 sur la Côte-Nord et un impact en valeur ajoutée de 22,5 pour la Côte-Nord et de 16,3 millions pour la Gaspésie.
Si l'étude révèle que le projet est rentable, présumément, quel en est maintenant son échéancier? Notre préfète Meggy Richard.
L'échéancier va se définir avec le positionnement du gouvernement qui est préalable à toute autre démarche, notamment au niveau des travaux portuaires et au niveau de l'augmentation de l'offre touristique dans les milieux. Les promoteurs attendent justement une nouvelle à ce niveau-là pour voir est-ce qu'il y a des opportunités, la fameuse boucle touristique, qu'est-ce que ça pourrait créer comme impact chez nous. Et je pense qu'on va vraiment susciter un intérêt de la part des promoteurs, des investisseurs pour développer des nouveaux produits touristiques et d'hébergement pour répondre à la demande. Mais tout ça est conditionnel à l'approbation du gouvernement d'aller de l'avant avec ce projet-là.
Avec le portrait politique que nous connaissons, l'élection qui vient au Québec, il y a une possibilité de changement de gouvernement. Est-ce que ça pourrait retarder une réponse éventuelle de la part du gouvernement par rapport à ce projet?
Il y a des étapes qu'on ne peut pas avancer parce que ça nécessite des investissements également, puis on n'avancera pas sans un commitment du gouvernement. Vous dites le gouvernement en place. En fait, nous, dans les derniers mois, ces résultats d'études-là ont été présentés autant aux politiques qu'aux fonctionnaires de différents ministères qui sont impliqués. Alors que le gouvernement en place demeure ou change, on est assez confiant là, que c'est une priorité régionale qui doit être entendue, peu importe par le gouvernement qui sera en place dans les prochaines années. Puis au niveau de la ventilation, Bon, si je parle pour le port d'Havre-Saint-Pierre, nous, je crois que c'est avec les Anticosti, c'est nous deux qui avons les plus gros investissements à faire. Du côté d'Havre-Saint-Pierre, c'est un investissement d'infrastructure portuaire. On a fait plusieurs devoirs dans le passé. On est très bien avancé au niveau de nos études de faisabilité, d'infrastructure. Du côté d'Anticosti, je peux laisser Mme Hélène répondre, mais c'est un quai STQ. Donc, je pense que le gouvernement est quand même au fait de qu'est-ce que c'est qu'il y a à faire à ce niveau-là. On a rencontré la STQ, on a rencontré les différents ministères, comme je vous disais. Donc, de venir ventiler, ça a peut-être pas été fait de façon très concrète sur papier, mais il y a plusieurs investissements qui sont bien connus de la part de chaque acteur qui va devoir les mener.
Odessa Thériault, directrice générale du port de Havre-Saint-Pierre. Maggie Richard voit un avantage à la désignation qu'a obtenue l'île de l'UNESCO, mais voit aussi une obligation pour les gouvernements de s'assurer qu'on puisse mettre en valeur justement cette désignation et l'île d'Anticosti.
Des investissements majeurs devront tout de même être faits, sont faits depuis quelques années par les deux paliers gouvernementaux, mais ils vont devoir de continuer d'avoir d'autres annonces parce qu'on doit la mettre en valeur, on doit profiter de cette désignation-là pour développer l'île. Donc, c'est pour amener justement de l'eau au moulin, je crois, qu'on va devoir demander la participation des deux gouvernements pour rendre l'île accessible maintenant. Donc, c'est tout à fait naturel et je crois que tous les autres promoteurs également qui pourraient développer des projets pourront le faire dans le cadre de projets normaux. Déjà différentes aides financières qui est déjà sur la table du côté des MRC, mais également du côté du gouvernement pour supporter le développement de projets régionaux.
J'exagère pas, l'UNESCO, là, c'est aussi gros que la romaine. C'est incroyable, c'est lourd à porter, c'est stimulant, c'est excitant, mais oui, ça donne une visibilité. L'imputabilité, là, c'est pas une petite municipalité de 200 habitants qui peut porter l'imputabilité d'un pareil dossier. Pour le faire vivre, il va falloir avoir un accès. L'accès, c'est quoi? C'est très fort. Il y a un projet de navette fluviale qui va dynamiser l'ensemble des deux régions. Fait qu'on va le marteler, on va le répéter, on va se faire valoir que dans les régions, il y a une importance, il y a des ressources, il y a plein de choses. Fait qu'il va falloir démontrer pourquoi on va grimper. Puis une des raisons, c'est que ça fait plus longtemps que les autres qu'on attend. Ça fait longtemps qu'on demande différentes choses, ça fait plus longtemps qu'on attend. Fait qu'à un moment donné, on va arrêter de reporter, puis là, on va y aller pour ce projet-là.
Nous avons reconnu évidemment notre mairesse. Et puis, il faut savoir que justement, Mme Boulanger a rappelé l'importance d'une consultation citoyenne auprès de ses résidents. Pour les insulaires, la future navette implique des changements importants. Alors, c'est important aussi de solliciter l'avis et le point de vue des gens d'Anticosti. Là-dessus, on se souvient qu'en onde, en décembre dernier, notre préfète Maggie Richard nous a assuré qu'elle viendrait présenter le projet à Lille, probablement flanqué de quelques-uns de ses acolytes dans ce projet-là. Ce sera sans doute la prochaine étape. Voilà donc le résumé de ce qui s'est fait hier en conférence de presse et le dévoilement des grandes lignes du projet de navette fluviale, un projet qui clairement ne va pas se concrétiser avant plusieurs années. Ce n'est pas demain la veille qu'on va voir arriver un bateau passeur ici, mais probablement à long terme, certainement une bonne dizaine d'années au minimum. Ce reportage a été réalisé grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.